Vous êtes sur RTL.
Allô maman bobo.
RTL.
Allô maman bobo.
Ça va beaucoup mieux, l'hebdo, avec Michel Simès.
Chers amis des DM du dimanche matin, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce 25 avril avec la petite bande Emma Stra, Christophe Brun et Patrice Romden. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Michel.
Bonjour à tous.
Emma, aujourd'hui, bobo la tête.
Oui, bobo la tête, petit rhume qu'on prend en charge soi-même sans passer par la case consultation. C'est l'automédication très pratiquée par les Français. On va voir comment s'y prendre pour éviter les mauvaises surprises.
Patrice.
Michel.
Elle l'a. Chante France Gall en 87 en hommage à la plus grande chanteuse de jazz de tous les temps, Ella Fitzgerald. Elle avait, nous dit France Gall, ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas et qui nous met dans un drôle d'état, c'est sûr. Mais elle avait aussi un méchant diabète. On en parle dans quelques minutes.
Christophe.
Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat.
La 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 la.
La boulangère lui souriait.
Joe Dassin, comme on dit au Pays Basque d'ailleurs. Et dans un petit pain au chocolat, il y a chocolat bien sûr. Notre thème du jour, vous vous souvenez, il y a 3 semaines, vous en mangiez du chocolat.
Ah oui.
Peut-être même que vous en mangez encore.
Ah oui.
Eh bien, j'ai fait un exercice, j'ai comparé les bienfaits du chocolat et ceux du sport. Et vous savez quoi? Ils ont les mêmes bienfaits, figurez-vous. On voit tout ça dans quelques minutes en attendant.
Quand va-t-on parmi les brioches, se remplissant les poches de...
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Et on va commencer comme toutes les semaines et à sa demande par Emma. Aujourd'hui, on ouvre l'armoire à pharmacie et on scrute les étagères de l'officine pour parler automédication, c'est-à-dire toutes ces fois où on prend un traitement sans avis médical. À quoi servons-nous, médecins?
Alors, d'après une étude Harris Interactive pour l'AFIPA, qui représente les industriels des produits de santé disponibles en pharmacie sans ordonnance, 80% des Français ont acheté des produits d'automédication en 2018. Mais en fait, l'automédication, ça va bien au-delà de ces achats. Il y a aussi les produits stockés dans l'armoire à pharmacie et notamment les médicaments prescrits sur ordonnance par le médecin, par exemple pour une angine bactérienne, et dont on garde les comprimés restants pour les réutiliser ensuite.
Et la plupart du temps, on se traite tout seul plutôt pour des petits soucis, ouais. Le rhume, les maux de gorge.
Le rhume ne se traite pas.
Ah, c'est pas vrai?
Si.
Parce que Michel Simès dit toujours, un rhume sans médicaments, ça passe en une semaine.
Oui.
Et un rhume avec médicaments, ça passe en 7 jours.
C'est vrai, absolument.
Voilà.
Vous avez raison, mais on peut quand même prendre des petits trucs pour se déboucher le nez un petit peu, Patrice, mais vous avez bien fait d'intervenir à bon escient. Il y a aussi les maux de gorge. Vous avez un truc à dire sur les maux de gorge, Patrice?
À mort, mais là, je m'abstiens.
Ah, peut-être quelque chose à dire sur la diarrhée.
Ah oui, alors.
Ah oui, non, bah, vous ne direz pas. La douleur ou la constipation, enfin, tous ces petits bobos qui permettre de se traiter tout seul, il y a quand même des limites. Hein.
Oui, alors j'ai identifié 3 risques principaux qu'on va développer ensemble et pour chacun, quelques conseils pour éviter le pire. Alors le premier risque, c'est l'erreur de diagnostic. Bah oui, on n'est pas tous médecins. Enfin, Patrice, si, quand même, il approche.
Il ne se trompe pas.
Voilà. Et donc, on n'est pas à l'abri de se traiter pour une maladie qui n'est pas la bonne. Exemple, vous prenez un médicament contre l'allergie ou contre le rhume, mais en réalité, vous faites du reflux parce que les symptômes sont les mêmes. C'est un exemple, il y en a d'autres. Et le risque d'un mauvais diagnostic, c'est la perte de chance. C'est-à-dire que pendant tout le temps où vous traitez une maladie dont vous ne souffrez pas, et bah, l'autre maladie, celle dont vous souffrez, elle n'est pas prise en charge, voire... elle évolue. Donc le conseil, c'est de respecter la durée d'un traitement. Si au bout de quelques jours, votre état ne s'améliore pas, il faut aller consulter. La durée, d'ailleurs, elle est indiquée sur la notice du médicament.
Deuxième risque, Emma, l'erreur de médicament ou le surdosage.
Alors, je vous donne 2 exemples. Le premier, c'est le médicament que vous retrouvez dans l'armoire à pharmacie. Vous avez un vague souvenir qui vous a été prescrit pour telle affection, ou vous pensez qu'il est de la même famille, mais non, en fait, c'est pas le cas. Autre exemple, vous avez mal à la tête et vous prenez du paracétamol, une molécule que vous connaissez bien, sauf que ce médicament efficace, il peut aussi être toxique si vous ne respectez pas la posologie. Donc, le conseil, c'est évidemment de bien relire la notice et si vous l'avez perdue, de la retrouver en ligne. Par exemple, vous retrouvez tout ça sur le site du Vidal qui est en accès libre.
Alors, il ne faut pas rigoler avec le paracétamol. Effectivement, Emma, c'est maximum 3 fois par jour en automédication, en respectant l'intervalle de 4 à 6 heures. Et au-delà, ça peut être très dangereux pour le foie et en cascade pour les autres organes. Le dernier risque, c'est celui de l'interaction médicamenteuse.
Oui, notamment si vous prenez déjà un autre traitement, par exemple pour du diabète ou une hypertension artérielle. L'interaction des différentes molécules, ça peut diminuer l'effet de certains médicaments ou au contraire les rendre plus toxiques. Donc, c'est important de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien en lui indiquant les traitements que vous prenez déjà.
Et il faut aussi être vigilant au risque d'allergie. Si vous êtes allergique à un médicament, un antibiotique par exemple, il est probable que vous soyez aussi allergique à toute la famille de cet antibiotique, donc prudence. Et pour ce qui concerne les interactions, Emma, on y revient la semaine prochaine sous un autre angle. L'effet de certains aliments sur les traitements médicamenteux, et ça c'est assez peu connu, notamment on parle beaucoup du pamplemousse, ouais, qui interagit beaucoup avec certains médicaments.
C'est pas le seul, ouais.
Patrice acquiesce.
Moi je me retourne à chaque fois parce que je veux voir quand même s'il est d'accord.
Bah, il faut confirmer toujours avec Dr Rolden. Voilà. Vous avez des petites infos insolites.
J'ai une phrase du médecin, le patient dit à son médecin, mais docteur je vais pas bien, je suis angoissé, je suis stressé par mon boulot, ma femme m'inquiète, ma famille aussi. Le docteur dit, mais vous dormez comment? Le gars fait en slip, pourquoi?
J'ai pas bien compris la question. Patrice.
Et vous nous avez pas fait la petite question habituelle ce matin, nous sommes le 25 avril. Que s'est-il passé le 25 avril 1953?
Qu'est-ce qu'il y a?
Une maladie
a été découverte.
Ce jour-là a été publié dans la revue Nature la découverte de quelque chose d'important qui tient en 3 lettres.
ADN.
Exactement.
Oh, on est profond.
Watson et Crick.
Oui, exactement. Ouais. Francis Crick et James Desmond Pneu. Non, James Watson, effectivement. Tous les deux ont.
Pourquoi pas? Il y avait pompe à vélo aussi.
Ouais, je veux dire, Patrice.
Il donne tout ce matin.
Alors, attends, si vous permettez, on va faire un casting. Si vous souhaitez devenir chroniqueur en remplacement de Patrice Rolden pour les prochaines émissions, vous nous envoyez sur RTL.fr votre candidat. Continuez, Patrice.
Ben voilà, j'ai tout dit. Francis Crick et James Watson, effectivement, ont publié dans Nature la structure de l'ADN.
Et est-ce que vous savez combien il y a à peu près de gènes sur cette double hélice d'ADN dans un corps humain?
Oula!
Ça se chiffre en milliers?
Ah oui.
En millions?
Non, en milliers, ouais.
En milliers, allez, je vais dire 9000.
Ben 22 000 gènes à peu près. Et c'est ce qui fait un être humain, vous vous rendez compte? Seulement 22 000 gènes qui sont la succession de lettres que vous connaissez, bien évidemment. On en reparlera un jour, Emma.
Puisqu'on essaie sur des questions d'agenda, je voulais vous signaler que samedi prochain, donc le premier samedi du mois de mai, c'est la journée mondiale du jardinage nu. Oui, alors, ça existe depuis 2005 et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors pour ceux qui voudraient s'y essayer, je rappelle quelques petits conseils de santé et évidemment attention au soleil parce que ça brûle.
Attention à la tondeuse.
Attention aux épines et évidemment aux petites bestioles comme les tiques parce que ce serait dommage que ça finisse mal.
Il faut mettre un chapeau quand même. Oui. Un chapeau et des bottes.
Il est temps qu'on fasse une pause. On se retrouve avec la chronique de Patrice qui va nous parler de Ella Fitzgerald.
Exact.
Well, hello, Louis. It's so nice to be back home where I belong.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Evening shadows make me blue. When each weary day is through, how I long to be with you, my happiness.
13 Grammy Awards, 40 millions de disques vendus, 3 octaves de tessiture, elle pouvait briser un verre avec la seule vibration de sa voix. Ella Fitzgerald, mesdames et messieurs, la grande dame du jazz voit le jour en 1917 dans l'état de Virginie. Elle grandit à New York dans le quartier de Harlem et à l'époque c'est compliqué. À ce propos, Patrice, avant d'en venir à son diabète, racontez-nous l'anecdote du Mocambo.
The Mocambo, un nightclub new-yorkais dans les années 50, et la Fitzgerald y est interdite de séjour. Motif, elle est noire. Quand Marilyn Monroe apprend ça, elle décroche son téléphone et appelle le propriétaire du Mocambo. Elle lui donne l'ordre de faire monter Ella Fitzgerald sur la scène du club. En échange, elle promet de réserver la meilleure table tous les soirs où elle se produira. Le proprio comprend vite que la seule présence de Marilyn va rameuter tout ce que l'Amérique compte de journalistes et de beautiful. Il dit banco, Marilyn tient promesse et tout le monde accourt.
Ils sont assez pragmatiques, ces Américains. Alors le diabète, je rappelle qu'il y a deux types de diabète. Le diabète de type 1, c'est celui qu'on a pratiquement à la naissance, celui qui dépend de l'insuline. Et le diabète de type 2, c'est celui qu'on appelait ou qu'on appelle encore le diabète de la maturité, qu'on observe souvent chez les personnes qui sont en surpoids ou qui sont obèses. Et puis il y a le diabète gestationnel qui lui concerne les femmes enceintes. Et puis il y en a d'autres, des diabètes secondaires. Tout ça, c'est un peu compliqué. En tout cas, les problèmes liés au diabète peuvent être très nombreux.
Oui, alors maladies cardiovasculaires, infarctus, insuffisance cardiaque ou rénale et cécité. Et la Fitzgerald ne va pas y échapper. Première alerte en 1957, la chanteuse séjourne un mois à l'hôpital et maigrit de 17 kilos. En 71, Ella Fitzgerald se fait opérer de la cataracte à l'œil droit. Elle ressort de la salle d'opération avec le sourire et, confesse-t-elle à l'époque, le plaisir simple de mieux voir son public pendant les concerts. En 72, c'est l'œil gauche qui est touché. Cette fois, c'est une hémorragie. Et la Fitzgerald annule ses concerts. Elle est d'autant plus affectée par cet épisode qu'il coïncide avec la disparition de Louis Armstrong, dont elle était très proche.
Oui, on se souvient d'un duo extraordinaire dans Mac the Knife. En 1986, quintuple pontage coronarien, les médecins confirment à Ella Fitzgerald que tout cela vient d'un diabète sévère qui est aussi à l'origine de ses problèmes de vue.
Sa voix résonne pour la dernière fois au Carnegie Hall de New York en 1991 et en 93 se joue l'ultime épisode de cette lente dégradation de sa santé. Des problèmes de circulation conduisent à l'amputation de ses jambes au-dessous des genoux. Elle a 76 ans, a perdu la vue et passe les trois dernières années de sa vie à jouir de plaisirs simples assise dans son jardin de Beverly Hills, là où la Californie brille de tout son or, à l'opposé de Harlem, où elle avait grandi.
On va continuer à parler diabète avec le professeur André Grimaldi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diabétologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. On a entendu cette belle et dramatique histoire d'Ella Fitzgerald. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de personnes diabétiques en France. Est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est dû au surpoids ?
Oui, c'est vrai. C'est le diabète, ce que vous avez dit, le diabète de type 2. Hein, le diabète de la maturité dû au surpoids, alors qui survient chez les gens maintenant plus jeunes. Hein. Avant, c'était après 40 ans, on en voit plus tôt. Et là, l'épidémie de Covid montre la gravité. Hein. C'est-à-dire 60% des patients hospitalisés en réanimation ont un surpoids.
Oui.
Et souvent, un diabète et une hypertension.
Alors justement, on en a beaucoup parlé hein, de ce diabète parmi les comorbidités, autrement dit les maladies qui faisaient le lit des formes graves du Covid. C'est quoi le lien entre le diabète, la surcharge pondérale et la gravité du Covid ?
Alors c'est d'abord la surcharge pondérale. Alors ensuite, après, c'est des hypothèses. La surcharge pondérale est responsable de nombreuses pathologies, dont le diabète, mais aussi de troubles respiratoires, y compris d'asthme. Il y a le syndrome d'apnée du sommeil. L'obésité en elle-même est un facteur d'atteinte respiratoire. Et puis, il y a des hypothèses sur la charge virale dans le tissu adipeux, etc. D'autres hypothèses physiopathologiques complexes. Le fait est que ce qui est important, c'est obésité qui entraîne le diabète, qui favorise l'hypertension, c'est le facteur de risque majeur des formes graves du Covid.
Est-ce que ça voudrait dire que toutes les personnes qui sont en surcharge pondérale, et pas seulement obèses en France, devraient régulièrement se faire doser le taux de sucre dans le sang ?
Ah bah oui, quand on a une obésité, et surtout si on a des facteurs d'hérédité, il est indispensable d'avoir tout simplement un dosage de glycémie tous les ans, tous les deux ans. Ça dépend si on a d'autres facteurs de risque. Si on est hypertendu, oui, bien sûr. Hein, il faut dépister. Il y a entre 500 000 et 1 million de personnes qui ont sûrement des troubles de la glycémie qui ne sont pas dépistées parce que cette maladie évolue complètement à bas bruit. Hein. Il n'est que quand elle est évoluée, importante, qu'elle se manifeste. Il arrive assez souvent que ce diabète de type 2 soit dépisté par des complications. Complications neurologiques ou complications de la rétine, de l'œil, hein, où on voit qu'il y a déjà des complications. Donc ça veut dire que le diabète est là depuis 5-10 ans à bas bruit, sans que la personne se soit aperçue.
Patrice.
Si on a un petit diabète ou si on se sent menacé par le diabète, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien, concrètement, notamment en matière d'alimentation, pour se mettre à l'abri?
Et je rajouterais d'hygiène de vie en général, parce qu'on a beaucoup dit aussi que l'activité physique était un facteur essentiel pour faire baisser le taux de sucre dans le sang.
L'activité physique, c'est sûrement le plus important. Alors, c'est une décision personnelle, mais c'est aussi un mode de vie, c'est aussi comment sont organisées nos villes, nos quartiers, l'accessibilité à l'activité physique, c'est le plus important. La planète s'est sédentarisée. Ensuite, l'alimentation, c'est d'abord un comportement alimentaire. C'est-à-dire un grignotage permanent d'aliments gras et sucrés, hein, ce qui est le plus agréable au goût, ça favorise le diabète. Il faut qu'il y ait 3 repas par jour et une alimentation équilibrée. Il y a des gens qui prennent 1 litre, 2 litres, 3 litres de soda par jour. Ça favorise l'obésité. C'est par l'obésité, hein, c'est pas le sucre en soi, c'est pas le bonbon, c'est pas le chocolat. C'est par l'obésité que arrive le diabète. Hein, le diabète, la conséquence de l'épidémie d'obésité. Et l'obésité, elle a une composante sociale. Hein. C'est-à-dire que cette épidémie de Covid, qui touche donc les populations obèses, c'est une composante sociale, c'est-à-dire les quartiers défavorisés, c'est les mêmes qui ont des logements exigus, c'est les mêmes qui sont les premiers de corvée, c'est les mêmes qui sont obligés de prendre les transports en commun. Bon, et c'est comme ça que, en France typiquement, c'est en Seine-Saint-Denis que le taux de diabète est le plus élevé et également les formes graves du Covid se développent.
Dernière question, Emma.
Avant les complications liées au diabète que vous évoquez, est-ce qu'il y a des signes à observer, Patrice? Par exemple, évoquer la perte de poids dans l'histoire de Ella Fitzgerald.
Oui, mais ça, c'est... Pourquoi on peut perdre du poids dans le diabète? C'est que tout d'un coup, si vous avez un taux de sucre est très élevé, quand il dépasse 1,80 g, il passe dans les urines. Alors si vous avez 3 grammes, 4 grammes, et que vous mettez chaque jour dans les urines 100 grammes de sucre, c'est-à-dire 400 calories, vous allez maigrir, mais au prix d'un diabète très déséquilibré. Alors, c'est une situation qu'on peut trouver, d'ailleurs, dans le diabète de type 1, le diabète à insuline, le diabète des jeunes, qu'évoquait Michel Simès au début. Il y a des jeunes femmes qui s'aperçoivent que si elles ne soignent pas bien leur diabète, si elles sautent des piqûres d'insuline, si elles maintiennent un taux de sucre très élevé dans le sang, et donc un flux de sucre très important dans les urines, elles peuvent maigrir. Et chez une personne jeune, c'est tentant hein, de contrôler son poids en ne soignant pas son diabète. Et ça se termine dans les drames, avec y compris les greffes rein pancréas et les complications les plus sévères du diabète. Donc l'amaigrissement dans un diabète dû à un déséquilibre du diabète n'est pas un bon signe. Toute autre chose est l'amaigrissement parce qu'on apporte moins de calories, parce qu'on a une activité physique plus importante, parce qu'on mange de manière équilibrée. Alors ça, c'est au contraire... ça va parallèlement à l'équilibre du diabète.
Merci beaucoup, professeur André Grimaldi, diabétologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et si on doit retenir quelque chose, c'est l'équilibre alimentaire, l'activité physique, la lutte contre le surpoids. Merci beaucoup de nous avoir éclairé. Patrice, vous qui êtes un historien de la médecine, vous savez comment on faisait le diagnostic de diabète avant qu'on ait toutes les analyses et laboratoires?
Aucune idée.
Avec l'urine?
Non. Oui, avec l'urine. Ouais, les médecins goûtaient l'urine pour voir si elle était sucrée.
Il l'a déjà.
C'est vrai. Je vous assure, Emma, tout ce que je vous dis est vrai. On se retrouve dans quelques instants après une pause pour le jeu de notre émission.
Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo. RTL.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Et je vous rappelle que nous sommes partenaires avec le magazine, l'excellent magazine,
ah oui,
Dr Good. Et avec le numéro qui est en kiosque actuellement, avec en couverture, soulagez vite, maux de tête et migraines. Vous avez à l'intérieur 5 pliométrique, exercice pour renforcer votre dos et vos épaules. Des exercices proposés par notre ami kiné Major Mouvement. Et vous avez bien sûr plein d'autres informations sur Dr Good. Et c'est la partie 3 de l'émission, la partie jeu. Et nous allons prendre en ligne Ingrid. Bonjour.
Bonjour Michel, bonjour toute l'équipe.
Alors bonjour, Ingrid, vous habitez Rennes, vous êtes conseillère de clients. Comment ?
Vannes,
c'est pas grave, vous venez de déménager, on ne m'avait pas prévenu.
C'est à l'ouest, hein.
Mais c'est à gauche, sur la carte de toute façon, vous êtes conseillère de clientèle, vous avez 36 ans, vous avez été une des premières en France à avoir le Covid, puisque c'était en mars 2020, c'est ça ?
Tout à fait, exactement, mais j'ai survécu.
Et ça s'est bien passé ?
Ouais, ça a duré 3 semaines quand même, mais ça va.
Ah, 3 semaines, très bien, vous avez perdu le goût et l'odorat ?
Non, pas du tout.
Qu'est-ce que vous avez eu comme symptômes ?
Beaucoup de fièvre. Beaucoup de fièvre, jusqu'à 40, et fatigue et courbature.
D'accord, et aujourd'hui ça va ?
Ouais, nickel.
Vous ne faites pas partie des Covid longs, donc
non.
Ça c'est plutôt bien.
Heureusement.
Donc, normalement, Ingrid, cet été, on devrait pouvoir partir en vacances. Eh bien, on vous propose une semaine de vacances en famille avec VVF, 2 adultes et 2 enfants. Si vous n'en avez pas, il va falloir en trouver. Et vous pourrez partir dans un village VVF. Vous ferez du cheval, des randos, du paddle, du VTT, du rafting, bref, tout ce que vous voulez pour 4 personnes. Et vous pourrez choisir, bien sûr, votre lieu de villégiature, je vous rappelle.
Alors vous me faites gagner alors, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de vacances.
Ah bah, il n'y a pas que vous. Hein. Et donc, on va vous faire gagner, je vais essayer. Mais voilà, il faut quand même écouter déjà l'énigme. Vous aurez 3 versions, 2 fausses, 1 vraie. La vraie, c'est celle de... Non, c'est de la faire gagner. Alors, en 2014, en Italie, dans le cadre d'une enquête, la police débarque au domicile d'une infirmière et met la main sur une 40aine de selfies un peu particuliers. Ces selfies, pris dans le service hospitalier où travaille l'infirmière, la mettent en scène avec, à chaque fois, un patient dont elle a eu la charge. Sauf que ces selfies sont scandaleux. Pourquoi ? Version Patrice.
Alors Ingrid, les patients avec lesquels l'infirmière se prenait en selfie étaient tous morts. Oui, elle posait avec leurs cadavres. C'est parce que les policiers soupçonnaient l'infirmière d'avoir elle-même tué ses patients en leur injectant du chlorure de potassium, voyez comme je suis précis, qu'ils sont venus la cueillir un beau matin chez elle pour l'embarquer et lui poser quelques questions.
Version Emma.
Beaucoup plus léger que ça, Ingrid. Les patients avec lesquels l'infirmière se prenait en selfie étaient tous des hommes avec lesquels elle avait eu un rapport sexuel sur son lieu de travail. C'était une femme blonde aux yeux verts qui séduisait ses patients et qui réussissait ensuite à les convaincre que c'était une super idée de poser ensemble dans le plus simple appareil, histoire de garder un petit souvenir de leur partie de jambes en l'air. Or, le code de déontologie interdit à une infirmière de s'envoyer en l'air avec un patient, en tout cas à l'hôpital.
Ah bon,
ouais. Ah, ouais. Ah bon. Ouais. Ah ouais.
Précision non, alors, utile.
Non, ouais. Ingrid, vous allez voir.
C'est Christophe.
C'est pour le coup, alors Ingrid, c'est une vraie histoire de cul, mais pas celle que vous pensez. L'infirmière, tenez-vous bien, attention, prenez toujours ces selfies devant un grand miroir où se reflétaient de dos et surtout les fesses des patients. Vous savez, parce qu'à l'hôpital, les patients qui vont au bloc opératoire sont équipés d'une blouse assez sommaire qui est ouverte sur l'arrière.
La blouse à fesses.
Blouse à fesses, et donc ça laisse entrevoir le postérieur de chacune des personnes qui la portent. Et la petite plaisanterie aurait pu durer plus longtemps, c'est quand l'infirmière a commencé à poster des photos sur Instagram que ça a commencé à faire du grabuge, d'où quelques plaintes et la fameuse enquête policière. Quoi.
C'est pas crédible tout ça.
Alors enfin, Ingrid, je vous rappelle, pour gagner votre semaine en famille, avec VVF, qu'il va falloir trouver la bonne réponse. Je ne sais pas comment vous aider, très franchement, parce que effectivement, les 3 peuvent être crédibles. Peut-être une un petit peu moins. Essayez par élimination. Laquelle vous paraît la moins crédible ?
Non, je pense que la plus crédible, à mon avis, même si c'est Gore, je crois que c'est Patrice qui a la bonne réponse.
Yeah !
Bravo ! Vive les vacances !
Super.
Bravo, bravo. Ouais, c'est crédible, mais c'est complètement dingue.
C'était pas simple. Hein. L'infirmière s'appelle Daniela Pogliali. Sur certains des selfies, elle s'amusait même à faire des grimaces. Alors, elle a été soupçonnée pour 40aine d'assassinats. Elle a d'abord été condamnée à la perpétuité, mais elle est sortie de prison au bout de 3 ans, en 2017, car elle a été acquittée en appel.
Eh, ouais. Eh bien, bravo Ingrid, vous avez gagné donc cette semaine de vacances en famille avec VVF, et on vous embrasse très fort.
C'est super, merci beaucoup, j'adore votre émission, je suis trop contente d'avoir pu jouer avec vous.
Eh bien, nous aussi, on l'adore, merci beaucoup.
Bisous Ingrid.
Au revoir, merci.
Ciao.
Bisous.
RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Pourquoi cette musique du Grand Bleu? Bien évidemment, c'est parce que notre invité aujourd'hui, celui qui participe à QI, question à l'invité, c'est Arthur Guérin-Bohéry. Bonjour.
Ah, oui. Salut Michel.
Ça va?
Ça va, ça va.
Vous savez ce qu'il a fait, les amis, Arthur Guérin-Bohéry,
champion du monde d'apnée.
Le 25 mars dernier, en Finlande, dans une eau à 2 degrés, il a battu le record du monde d'apnée en distance à l'horizontale sous la glace. Il va nous expliquer ça. Vous avez parcouru, Arthur, 120 mètres exactement pendant 3 minutes. Mais moi, je vous connais un petit peu, Arthur, et puis vous êtes connu dans le milieu de l'apnée. Mais 3 minutes, c'est peanuts, non?
3 minutes, c'est peanuts, mais en réalité, ce qui compte sur cette performance, c'est surtout la distance parcourue plus que le temps d'apnée. En réalité, on peut nager lentement, on peut nager rapidement, ça c'est pas très important, mais ce qui compte surtout, c'est là où on pose la marque, c'est vraiment la distance, quoi.
C'est quoi votre record d'apnée hors glace?
J'ai un record du monde à 300 mètres qui a été battu récemment, ouais. Voilà, que j'ai nagé en piscine.
Combien de minutes ça fait?
Ça représente 4 minutes 30 de nage à peu près. Voilà, j'ai fait ça en bassin en Italie en 2016. Maintenant, je m'attaque à des trucs un petit peu plus exotiques, on va dire.
Ouais, ouais, moi je comprends. C'est sympa. Ouais. C'est sympa d'aller sous la glace. Alors, pour ceux qui sont angoissés, on va les rassurer. Vous aviez quand même des trous tous les 20 mètres?
Ouais. Alors, en gros, il y a un trou au début, un trou à l'arrivée. Et ensuite, on a des issues de secours, voilà, tous les 20 mètres, qui permettent de sortir si en situation d'urgence, s'il y a le moindre pépin. Mais voilà, entre 20 mètres de glace, quand on a déjà nagé 60 mètres, par exemple, ça commence à faire beaucoup pour aller au trou d'après, quoi.
Ouais, bah même quand on n'a pas nagé beaucoup. Patrice?
Alors moi, ce qui me stupéfie, c'est que vous ayez fait ça dans une eau à 2 degrés.
Ouais.
Dans quelle mesure la température de l'eau influe, à la baisse ou à la hausse d'ailleurs, sur les performances de l'apnéiste? Et pourquoi?
Bah, c'est assez paradoxal. En réalité, l'eau froide protège en quelque sorte un petit peu l'apnéiste. En gros, quand on fait de l'apnée, il y a tout un tas de réflexes physiologiques qui se mettent en place pour protéger l'apnéiste, justement, notamment le cœur qui ralentit, notamment le sang qui reflue vers les organes nobles. Voilà, on a tout un tas de réflexes physiologiques qui protègent en réalité l'apnéiste. Et ces réflexes physiologiques sont augmentés lorsque l'eau est froide, c'est-à-dire que le corps réagit plus fort lorsque l'eau est froide et s'adapte encore mieux en situation d'apnée, on va dire. Paradoxalement, l'eau froide donne envie de respirer beaucoup plus tôt et donc mentalement, c'est beaucoup plus difficile. Donc en fait, on a un corps qui se protège plus fort, mais en même temps, mentalement, c'est plus difficile parce que l'envie de respirer survient beaucoup plus tôt. Donc c'est assez paradoxal. On est en sécurité, mais c'est difficile mentalement.
Voilà. Alors, une précision pour Christophe, quand vous parlez d'organes nobles, c'est le cerveau. Emma.
J'aurais posé la question justement.
Bah, je sais.
Cœur, cerveau, poumon.
On l'entendait tout à l'heure, Le Grand Bleu, ce film mythique. Et d'ailleurs, la performance que vous avez réalisée, elle me rappelle une scène de ce film Sous la glace. C'est un film qui nous a tous fait rêver. Est-ce que c'est ça qui vous a aussi motivé? Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à devenir apnéiste? C'est pas un métier banal, quoi.
Alors, ouais, ce film m'a interpellé beaucoup et cette histoire est restée dans ma tête toute mon adolescence jusqu'à ce que je m'intéresse à ce sport plus sérieusement arrivé à l'âge adulte et jusqu'à ce que je me rende compte, en fait, que c'était un sport en plein développement, en plein boom. Et qui aujourd'hui était devenu une espèce de sport bien-être, de sport tendance, voilà, qui n'est plus réservé à une élite de plongeurs, mais qui est aujourd'hui très prisé de tout un chacun, notamment dans les grandes villes où des gens sont comme ça en perpétuelle quête de pratiques bien-être et qui essayent le yoga, qui essayent le tai chi et qui un jour essayent l'apnée parce qu'ils ont lu dans Gala que c'était bon pour le corps et l'esprit, quoi. Donc aujourd'hui, voilà, c'est vraiment un sport tendance, quoi.
Une dernière question, Arthur. Vous avez déclaré, c'est très envoûtant, très lunaire, et on se sent bien.
Ouais.
Est-ce qu'il n'y a pas justement un risque, et là aussi ça rappelle un peu la fin du Grand Bleu, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de se sentir trop bien et d'oublier qu'à un moment il va falloir respirer?
Non. L'envie de respirer revient très vite, hein, et elle nous ramène très vite à la surface. Non, l'envie de respirer, quoi qu'il arrive, nous ramène toujours à la réalité, même s'il y a effectivement une phase à chaque fois au début de l'apnée qui est très planante. Cette phase dure plus ou moins longtemps et puis on est toujours ramené à la réalité par l'envie de respirer. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce que je fais sous la glace, c'est effectivement, on va dire, une discipline très élitiste au sein de ce sport, au sein de l'apnée. Mais l'apnée est un sport qui est accessible à tous. Voilà, c'est comme voilà, on peut faire un footing le dimanche entre copains et ensuite on peut courir un marathon. Bah, c'est exactement pareil. On peut faire de l'apnée à n'importe quel niveau, qu'on soit sportif ou pas, fumeur ou pas, vieux, jeune, etc. Et ensuite, on peut faire de la compétition, ce que je fais, et les deux n'ont vraiment rien à voir, quoi. Voilà.
Merci mille fois Arthur et bravo pour votre exploit.
Merci,
et je vais merci et à très bientôt. Et Patrice, puisque vous vous inquiétiez de savoir comment vous pouvez nager dans une eau à 2 degrés, il était en combinaison Arthur, mais son prochain défi c'est de le faire sans combinaison.
Oula.
Bah, ouais. On se retrouve dans quelques instants avec Coach Cricri.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo. RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Taille-moi les hanches, à la hache, j'ai trop mangé de chocolat.
Eh bien, mon coach Cricri, pour une fois, c'est moi qui vais commencer par un petit quiz. Ah. Savez-vous quelle quantité en France nous mangeons de chocolat par personne et par an, sachant que nous sommes les sixièmes plus gros mangeurs de chocolat dans le monde?
En kilos? On dit des kilos par habitant?
En kilos, allez. Qu'est-ce qu'on dit ?
En kilos.
Une quinzaine ?
Deux kilos.
Ouais, 15 kilos, c'est pas mal. Ouais.
Alors, 7 kilos 3.
Bah, c'est pas mal.
Par personne. Pas ouais, mal. Ouais. Alors, Christophe, coach Cricri, cette semaine, la question, c'est de savoir si le chocolat est aussi bon pour la santé que le sport. Ce sont de drôles de questions pour un coach.
Pour un champion, mais non. Oui, j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui parce qu'effectivement, je me suis rendu compte qu'on reconnaissait au chocolat les mêmes bienfaits que le sport. Par exemple, le cacao, fortement présent dans le chocolat, contribue à libérer les endorphines, une des quatre hormones du bonheur dont on parle si souvent ici quand même.
Des quatre hormones, hein, quand même.
Oui,
hein.
Quatre hormones.
Oui, j'ai fait
exprès parce que... Dès lors qu'il est question de quatre hormones... Quelles sont les trois autres? Il y a la dopamine, il y a l'hormone de la réussite et de la récompense, l'ocytocine, l'hormone du lien, de la confiance, de l'amour, hein, la femme enceinte, voilà. Le bébé, et puis la sérotonine, l'hormone du respect et de la prédominance
masculine.
Sociale.
Voilà. Et justement, Patrice, grâce à la présence de sucre, le chocolat favorise l'action de la sérotonine, le neurotransmetteur qui joue un rôle primordial sur notre humeur. Il favorise ainsi l'apaisement et le bien-être. Vous croquez dans un carré de chocolat et vous vous sentez apaisé, décontracté, comme après une bonne séance de cardio en fait. Autre cousinage entre le chocolat et le sport, vous savez que le sport et l'activité physique favorisent la circulation du sang et abaissent la pression artérielle. Mais paf, le chocolat aussi, et grâce à qui? Les flavonoïdes qui sont des pigments végétaux de la famille des polyphénols. Ils sont bons pour leurs propriétés antioxydantes, ils sont bons pour leurs propriétés anticancéreuses, ils permettraient aussi de lutter contre les maladies cardiovasculaires en favorisant une bonne santé des vaisseaux sanguins, comme le sport, je vous dis. En
et,
fait.
Et on trouve des flavonoïdes, pas uniquement dans le chocolat, mais aussi dans le thé, le raisin, les oignons, les pommes, la grenade, le cassis, les fraises, les myrtilles, le café, et le soja.
Et même Emma se met au sport et
ouais.
Au chocolat. Dans
au chocolat ouais.
Si vous me dites que le chocolat est aussi bon pour la santé du cerveau, je ferai ma séance ce matin sur mon home trainer en mangeant du chocolat. Hein.
Mais vous pouvez, Michel, le chocolat est top pour l'attention et la mémoire. Mais vous savez pourquoi ? Eh bien, je vais vous le dire.
Magnésium, non ?
Ça m'a échappé. Parce qu'il contient de la théanine, un acide aminé qui n'a pas son pareil pour favoriser la relaxation, l'attention et la concentration, les trois armes fatales d'un cerveau en bonne santé. Et puis, il y a les flavonols de la famille des flavonoïdes dont on parlait tout à l'heure, qui sont présents dans le cacao et qui jouent en faveur de l'afflux de sang dans le cerveau et qui accentuent nos capacités de mémorisation. Je sens que je vais inventer un nouveau concept, genre le chocosport. Il y a peut-être un truc à trouver.
Oh, le spocola. Et voilà. Alors, pour finir... coach Cricri, il y a aussi du magnésium dans le chocolat, je crois, et on sait que la fatigue, qui est le résultat des notamment des troubles du sommeil, est souvent liée à une carence en magnésium. Le chocolat permettrait donc, si j'ai un raisonnement scientifique,
bien sûr, ouais,
de retrouver un bon sommeil.
Ah oui, exactement. Le chocolat, surtout le chocolat noir d'ailleurs, contient des quantités suffisamment significatives de magnésium pour combler ces manques qui peuvent effectivement détériorer le sommeil. Je rajoute quand même qu'il y a aussi de la caféine dans le chocolat. Dans le chocolat noir le soir et pas forcément très bien pour le sommeil. Voilà, mangez-en le matin.
Et il y a de la théobromine dont on dit qu'elle est aphrodisiaque.
Ah, vous savez ça ? Ça doit être ça alors.
Je ne sais pas si c'est vrai. Patrice.
Non, puisqu'il est question de chocolat, je vais citer trois marques pour ne pas avoir de problème avec le CSA, Lindt, Lanvin et Suchard. Et vous savez pourquoi le chocolat Suchard, le logo, c'est un cheval avec les fesses en l'air ?
Oulala, attention.
Non, pas du langouchat.
Ouais.
Pour faire son cacao, pardon.
Ah ouais, c'est Patrice. Bien Patrice.
Patrice, j'aimerais bien qu'on parle avant les émissions.
Non mais Patrice s'aventure dans l'humour, il faut lui en vouloir, c'est bien.
Non mais c'est bien Patrice, c'est bien. Vous avez une nouvelle carrière. Non, elle est bien, non, ne me regardez pas comme ça en pleurant, elle est bien.
Moi je suis mort de rire.
Il nous reste petit peu de temps pour des brèves.
Oui, moi je vais vous citer deux grands penseurs. Mais qui
c'est
a
pas
dit...
Suchard, c'est Poulain en plus.
Oui, mais... Mais c'est ça que je comprenais pas du tout.
Ah non.
Mais oui, je comprenais pas le rapport avec le cheval.
Ah, elle est drôle finalement.
Bon.
Ah oui.
Elle est drôle.
Je tape les cuisses.
Je la refais.
Emma, attendez. Ouais. Emma, calmez-vous.
Elle y est pour rien, la pauvre.
Emma, est-ce que vous avez quelque chose à dire ?
Oui, moi je voulais vous citer deux grands penseurs et à vous de les retrouver. Qui a dit que ton alimentation soit ta première médecine ?
Hippocrate.
Ouais. Ça, et donc le médecin grec de l'Antiquité qui avait compris que la maladie n'est pas une punition divine. Et qui a dit « quand l'appétit va, tout va » ?
Patrice Romden.
Pierre Dac.
Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va.
Obélix.
Ah bah oui, c'était pas loin.
Un autre grand penseur. Voilà.
Patrice.
Oui, il ne faut pas mélanger allaitement et biberon de lait industriel. Info ou intox ?
Intox.
Bon, bah, vous avez raison. Intox. On peut parfaitement combiner les deux. On appelle ça l'allaitement.
Mixte.
Alterné.
Mixte.
Pardon.
C'est tout, Emma.
Emma, c'est tout.
Elle est maman.
Ouais. Bah, oui. Et vous savez ce que c'est que l'arénation ? C'est pas la rénation de la pièce pour que ça sente meilleur. Arénation.
Bah, l'arénation, c'est l'arrêt du bus Place de la Nation.
Non plus, c'est pas
non
ça.
Plus.
Non, l'arénation, alors, je vais vous le dire parce que sinon vous allez me sortir des trucs incroyables. Mais c'est les bienfaits du sable chaud qu'on peut utiliser en thalassothérapie pour lutter contre les douleurs dorsales, les douleurs musculaires, les douleurs tendineuses. C'est un très bon effet sur le corps. Ça s'appelle l'arénation.
L'arénation, très bien. Voilà. Ça fait un mot de plus dans notre vocabulaire. Merci beaucoup les amis, merci à tous les trois. Patrice, vous allez prendre un petit peu de repos avant la semaine prochaine. Et on se retrouve bien sûr dimanche prochain à 9h15. Et d'ici là, n'oubliez pas.
Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème.
Avec Sacha Distel et La Belle Vie, passez une bonne semaine. On vous le dit toutes les semaines, tous les dimanches, mais la lumière se rapproche, la lumière au bout du tunnel. On ne sait pas combien de kilomètres fait le tunnel, mais ça vient. Et allez vous faire vacciner si vous le pouvez. On se retrouve dimanche prochain, 9h15, sur RTL. On vous embrasse.
Bonne semaine. Dimanche.
Salut.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.